Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci d'être avec nous si vous êtes là depuis 9h. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous sommes très heureux de recevoir le réalisateur Bruno Dumont. Avec lui, on va parler de son nouveau film présenté à Cannes et qui sort demain en salle. Il s'appelle Jeanne. Il sera question de Jeanne d'Arc, mais comme on ne l'a jamais vu ni filmé. Et puis, dans les indispensables, on vous dira tout des films qui sortent demain en salle. En plus de Jeanne, ça sera avec Mathieu Charrier. Et pour les amoureux des comédies musicales, Thierry Géfrotin fait un gros plan sur Ghost. Mais je commence avec vous et le journal de la culture. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ce journal qui démarre par un biopic sur Grégory Lemarchal qui serait en préparation. Écris l'histoire, tout ce que
tu voudras entre mes lignes. Et oui, TF1, qui a contribué au succès de Grégory Lemarchal avec la Star Academy, prépare un film 12 ans après sa mort sur la vie du chanteur, mort en 2007 à l'âge de 23 ans. Il est décédé des suites de la mucoviscidose. Alors, ce sera sous la forme d'un biopic. Ce garçon qui s'est battu contre la maladie a repoussé les limites, a raconté au Parisien Anne Viau, directrice artistique de la fiction de TF1. Selon elle, le scénario est assez joyeux. Les spectateurs pourront, à l'aide de cet unitaire, pénétrer dans les coulisses de la Star Academy. Alors, qui interprétera le rôle de Grégory Lemarchal? La question reste ouverte et les propositions peuvent être faites aussi.
Et est-ce que c'est Nikos qui va jouer Nikos?
Eh bien, c'est une bonne question. C'est exactement la question que j'ai posée en arrivant tout à l'heure.
Et alors, qu'est-ce qu'on vous a dit?
On ne sait pas.
Et on va continuer.
Hélène, on peut lancer l'idée.
Si on lance l'idée. L'idée, tout le monde l'a eu. Après, il faut qu'ils disent oui. Hélène, vous continuez par une annonce qui était pour certains très, très attendue.
Eh oui. Non, Rihanna n'arrête pas la musique, puisque trois ans après la sortie de son dernier album, Rihanna sortira bien un nouvel album en décembre prochain. Ce sera son 9e, annonce officielle par Universal Music France. Alors après Anti, dévoilé en 2016, la chanteuse a ralenti ses activités musicales. Rihanna a notamment lancé sa ligne de cosmétiques, sa collection de lingerie et sa marque de luxe. Alors, interrogée en mai dernier par le New York Times, Rihanna avait expliqué que son album aurait des sonorités de reggae et qu'il s'appellerait R9. Je pense l'appeler comme ça, sans doute parce que mes fans m'ont harcelé avec ça. R9, quand est-ce que R9 va sortir? Comment je pourrais accepter un autre titre alors que celui-ci a été incrusté dans mon crâne? Eh bien, on attend ces musiques qui vont sûrement rester dans notre tête, surtout celle de Céline, je pense.
C'est sûr.
J'y pense. Ça peut être Nicolas Canteloup qui peut jouer Nikos si Nikos n'est pas libre.
Ah, vous êtes encore sur...
Je suis sur le coup de Nikos, mais aussi, je vous dis, j'adore ce début de journal en musique et qui continue avec une autre diva.
La chanteuse britannique Adele est en plein bouclage de son prochain album, elle aussi décidément. Dans une interview pour l'émission Carpool Karaoke avec James Gordon, elle a expliqué que son prochain album pourrait tout simplement s'appeler Adele. Alors une renaissance quand même pour la chanteuse, parce que depuis quelques temps elle ne va pas très très bien. Elle a une vie personnelle particulièrement mouvementée. En avril 2019, elle a annoncé qu'elle se séparait de son mari et père de leur enfant. Alors l'album devrait sortir en fin d'année 2019, et dans cet album, elle parlera de l'an passé, celui de ses 30 ans qui a été donc très difficile. Elle a toujours utilisé la musique comme une sorte de thérapie et elle est désormais prête à partager tout ça avec ses fans, a déclaré l'un de ses proches.
Je fais un petit moment de silence pour dire que Eva Longoria brise le silence.
Oh, quel effet.
Et elle a raison de briser le silence, je vais vous expliquer.
Oh, quelle reprise.
7 ans après le dernier épisode de Desperate Housewives, Eva Longoria fait des révélations sur l'ambiance dans les coulisses de la série notamment. Alors en mars dernier, celle qui interprète Lynette est accusée d'avoir donné une somme illégale à quelqu'un pour que ses filles soient inscrites à l'université.
Ouais.
C'est l'actrice Felicity Huffman. Eva Longoria a décidé de la soutenir en écrivant une lettre pour affirmer la gentillesse et la loyauté de l'actrice. Elle en a profité pour prendre la parole et expliquer « Il y a eu un moment où j'ai été harcelée sur le plateau par un collègue. J'appréhendais les jours où je devais travailler avec cette personne, car c'était de la torture. Felicity Huffman m'a toujours soutenue. Eva Longoria ne donne pas l'identité de la personne. »
Pierce Brosnan, l'agent 007, a donné une idée pour les prochains James Bond. «
Et c'est une petite suggestion qui fait plaisir. De passage au Festival américain de Deauville, il a évoqué l'idée d'un James Bond incarné par une femme. Il a évoqué le sujet lors d'une interview Hollywood Reporter. Alors, et pour l'acteur, cela ne fait aucun doute. Oui, il est temps qu'une actrice incarne le célèbre agent au service de sa majesté. Je pense que nous avons assez vu des hommes le faire pendant les 40 dernières années. Alors dégagez du chemin, les mecs, et mettez une femme à la place. Je pense que ce serait vraiment exaltant et excitant. Alors débat lancé du côté des producteurs, c'est loin d'être fait. En attendant, la presse anglophone a récemment révélé que l'actrice Lashana Lynch devrait prendre la relève de Daniel Craig en devenant la nouvelle 007 dans le 25e épisode de la saga, No Time to Die. Donc on l'attend le 8 avril dans les salles françaises. Et si la jeune femme ne deviendra pas vraiment James Bond, elle va récupérer quand même son numéro d'agent secret. Ce qui est pas mal. Et donc avec Céline, on postule pour être une James Bond
Girl.
Il y aura des James Bond Girls avec une James Bond, elle-même une fille. Pourquoi ça serait pas des James Bond Boys?
Oui, c'est vrai, ça, il a raison, prenons des James Bond Alors, Boys.
Dis donc, et leur tour, tu sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Le musée d'Orsay, je redeviens sérieux, qui propose une nouvelle façon de connaître les œuvres des impressionnistes.
Un nouveau parcours aéré et moderne qui va permettre une visite cohérente des collections impressionnistes et post-impressionnistes. Alors, occasion d'exposer de nouvelles acquisitions et de mettre surtout en valeur des œuvres majeures. 9 salles ont été complètement rénovées au 5e étage. Alors, il y a un nouveau parcours qui inclut des peintures, sculptures, objets divers et jusqu'au début du cinéma, ce sont 136 œuvres de ce mouvement pictural qui sont mises en valeur, dont certaines qui étaient quand même rarement montrées. Il y aura du Van Gogh, du Gauguin, des Émile Bernard. Et les arts du spectacle aussi ne sont pas oubliés, avec des silhouettes en zinc projetées au cabaret du Chat Noir et des extraits de films de James Williamson.
Et on termine ce journal par un mea culpa.
Je vous en parlais la semaine dernière, Nicki Minaj qui a annoncé subitement sur Twitter l'arrêt de sa carrière. Elle a présenté ses excuses auprès de ses fans extrêmement choqués par l'annonce. Elle promet encore plus d'explications. Je suis toujours là, je suis toujours folle amoureuse de vous et vous le savez, avec le recul, j'aurais dû en faire un numéro de Queen Radio, son émission. Et ce sera le cas, je vous promets que vous serez satisfait. Pas d'invité, seulement nous qui parlons de tout. Ce tweet était brutal et insensible. Je suis désolée, babe. C'est pas moi, mais... Voilà, je n'ai pas écrit cette phrase. Hein, c'est
Nicki Minaj. J'ai bien compris, il y avait des guillemets, j'ai bien compris.
Donc, et j'en profite pour faire également mon mea culpa, puisque hier, lors du portrait d'Oxmo Puccino, je vous ai passé une musique, celle-ci.
Ouais!
En vous affirmant que c'était la musique de Playmobil et c'est la musique de Lego. Faut avouer, à demi pardonner. Je m'excuse ce matin.
Mais il n'y a même pas besoin de s'excuser parce que Oxmo Puccino était ravi. Il a dit c'est le titre parfait. Voilà. Lui, ça lui est très très bien. Merci beaucoup Hélène. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu. Ce sera avec Bruno Dumont.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et on accueille votre invité, le réalisateur Bruno Dumont, Philippe.
Bonjour Bruno Dumont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici dans Culture Média, je suis ravi, vous êtes cinéaste. Je vais citer La vie de Jésus, prix Jean Vigo en 97, L'humanité, prix d'interprétation au Festival de Cannes, plus Grand Prix du jury en 99 ou encore Flandre, Grand Prix du jury à Cannes en 2006. Je ne vais pas raconter toute votre filmographie. En 2014, vous signez votre première série à la télé sur Arte, ça s'appelait Petit Quinquin, une mini-série irrésistible de drôlerie, 4 épisodes de 52 minutes, juste pour situer, si vous ne l'avez pas vu, je donne l'intrigue. Un cadavre, une femme découpée en morceaux, fourrée dans les fesses d'une vache. Ça démarrait comme ça. Et là, vous revenez au cinéma pur et dur avec Jeanne. Ça fait bien rire Manarino. Vous revenez avec Jeanne, qu'on a vue au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. C'est d'après le Jeanne d'Arc de Charles Péguy. Pourquoi cette version? Pourquoi vous attaquez à Jeanne d'Arc alors qu'il y a déjà une trentaine de films qui lui ont été consacrés? Ça va de Dreyer à Luc Besson.
Mais je pense qu'il y a une trentaine de films parce que justement, c'est une histoire formidable. C'est un scénario parfait. C'est l'histoire extraordinaire de quelqu'un de tout petit qui vit, qui est une fille très simple et qui va devenir quelqu'un d'extraordinaire, qui va devenir quasi sainte, pas même sainte d'ailleurs. Et ça, c'est le scénario parfait. C'est-à-dire, voilà, c'est une histoire formidable.
Pardon de vous dire ça, scénario parfait, parce qu'il faut du suspense. Vous êtes cinéaste, il y a le récit, il y a la narration, mais tout le monde connaît la fin.
Oui, mais même dans la vie réelle, c'est formidable. C'est formidable comme ça d'être quelqu'un qui est illettré et qui va commencer à être illuminé et qui ensuite va devenir soldat, chef de guerre, qui va mettre le roi sur son trône, qui va avoir un procès, l'Église va la condamner et qui, à 19 ans, va mourir sur un bûcher. C'est extraordinaire.
Alors expliquez-moi pourquoi il est extraordinaire de raconter une histoire que tout le monde connaît. Puisque le spectateur se dit, bah là, je sais ce qui va se passer. Elle va essayer de marcher sur Paris, bim, elle va être arrêtée, oui. Les Anglais vont lui faire un procès, et finalement, elle va être brûlée.
Parce que je
donc,
pense...
quel est, je veux dire par là, quel est votre travail de cinéaste? Qu'est-ce que vous apportez à cette chose que chacun connaît?
Tout le monde connaît, et en même temps, c'est une histoire qui est en fait un mythe. C'est-à-dire, ça représente quelque chose qui est à la fois historique et qui est intemporel. En fait, ça raconte l'histoire du cœur humain, voilà, du rêve humain. Et donc, pourquoi il y a une nécessité de le refaire, justement, c'est qu'il faut la rendre moderne. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de la remettre au goût du jour et de nous faire entendre Jeanne aujourd'hui.
Alors oui, aujourd'hui, ce n'est pas un auteur de 2019, c'est Charles Péguy. En deux mots, qui est Charles Péguy et pourquoi êtes-vous allé le chercher, lui?
C'est un auteur du 19e, 20e siècle, qui est un grand poète français qui a écrit une Jeanne d'Arc absolument fulgurante. C'est-à-dire qui lui-même réinterprète Jeanne d'Arc. Et moi, je fais un travail sur Péguy, en quelque sorte, pour faire du cinéma, et c'est-à-dire faire de Jeanne d'Arc une héroïne de cinéma.
Je voudrais qu'on entende un dialogue, j'ai vu le film, il y a un dialogue qui m'a vraiment complètement, je ne trouve pas le mot poli, scotché. Qui était Raoul de Gaucourt?
C'est un soldat, c'est un chevalier qui a combattu à côté de Jeanne d'Arc.
Il revient vers elle, et ils ont ce dialogue.
Vous imaginez, Madame Jeanne, que tout le monde est aussi pieux, aussi pitoyable, aussi bon que vous. C'est une grave erreur. Si vous connaissiez la vie, mais vous n'êtes qu'une enfant, vous ne connaissez pas la vie, vous ne connaissez pas le monde. Les hommes ne valent pas cher, Madame Jeanne. Les hommes sont impies, les hommes sont cruels, pillards, voleurs, menteurs. Ils aiment la ripaille. C'est triste à dire, hélas, mais c'est ainsi. Et depuis 50 ans que je les fréquente, c'est toujours ainsi que je les ai connus.
Mon maître, les hommes sont comme ils sont, mais il faut penser, nous, à ce qu'il faut que nous soyons.
Immense maturité de ce texte. Il parle de l'homme de 50 ans. Il a quel âge, Péguy, quand il écrit ça?
22 ans.
Et alors?
Et quand je vous disais que c'était intemporel, vous voyez, vous venez d'entendre ce qu'il dit sur les hommes et sur les femmes. C'est vraiment intemporel. C'est toujours pareil, en fait.
Je peux vous dire, j'ai vu le film, j'ai été bluffé par ce dialogue et en lisant le dossier de presse, j'ai appris que vous aviez travaillé avec les textes de Péguy, je l'ignorais en entendant le film. Vous avez choisi une Jeanne d'Arc d'une présence extraordinaire, elle s'appelle Lise Leplat Prudhomme, elle n'a que 10 ans.
Alors curieusement, justement, dans l'histoire du cinéma, les Jeanne d'Arc n'ont jamais eu l'âge véritable de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est morte à 19 ans, Falconetti avait 35 ans, ouais. Ingrid Bergman en avait 39.
Et la vraie Jeanne, elle avait quoi, 14, 15, 16?
19.
19, pardonnez-moi.
Donc ça montre bien que la question de l'histoire n'est pas importante et qu'on pourrait même demander à un homme d'interpréter Jeanne d'Arc. Je pense que ça ne poserait pas de problème non plus.
Pourquoi seulement des acteurs amateurs? Il n'y a que des amateurs à l'exception notable de Fabrice Luchini. C'est votre choix, c'est votre cinéma, c'est votre marque de fabrique?
Oui, parce que j'aime bien travailler avec des vrais gens. Il y a quelque chose de vrai qui sonne juste, qui est très fragile. J'aime beaucoup la fragilité et j'aime beaucoup la justesse et j'aime bien la musique des gens.
Alors, on va entendre ce que ça donne. Il y a un charme indéfinissable. On est quelque part, moi je me dis, on est quelque part entre Éric Rohmer et une école de théâtre première année.
Il n'y a vraiment pas de chance. Vous ne savez pas ce que l'on m'a dit ce matin?
Non, messire.
Et vous, Madame Jeanne, vous ne savez donc pas la nouvelle?
Quelle nouvelle?
Il paraît qu'il y a des bandes qui ont pillé 2 ou 3 villages. Mais alors, des villages de riches? Quand je pense que je n'y étais pas, ça ne s'est passé pas très loin d'ici.
Où donc, messire?
À 2-3 journées de marche, en descendant la Seine. Il paraît que c'était furieux, ils ont brûlé des hommes, des femmes, des enfants.
Mais il faut y aller demain, messeigneurs. Il faut y aller dès qu'on aura pris Paris. Oh mon Dieu, toujours ces brigands anglais.
Ah, mais vous vous trompez, Madame Jeanne. Ce ne sont pas les Anglais qui ont fait ça, mais les Français.
Ah.
Les Anglais n'auraient pas été furieux et aussi bêtes que ça. Il n'aurait pas commencé par brûler les femmes.
Il y a beaucoup d'émotions, mais quand il rate une syllabe, vous ne refaites pas la prise. Vous laissez tel que.
Qui est celui-là? C'est Gilles de Rais.
Ouais.
Oui. Donc c'est un Gilles de Rais revisité aussi.
Et il y a les accents, vous avez tourné où?
Bah lui, il est du Nord, il est de Saint-Omer,
ouais.
Qui sonne comme les gens de Saint-Omer.
Et c'est un choix.
Oui, je tourne dans le Nord, donc avec des gens du Nord, dans les paysages du Nord. Et voilà, il y a une harmonie qui fait que oui, effectivement, les gens sont en harmonie avec le paysage. Oui.
Je ne ferai aucune remarque, il y a dans ce studio quelqu'un de Valenciennes et on va l'entendre.
Le réalisateur Bruno Dumont est l'invité de Culture Média et dans un instant, on saura tout de lui grâce aux indiscrétions de celle qui arrive de Valenciennes, Hélène Manarino. C'est son portrait inattendu et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe Vandel, du portrait inattendu de votre invité, le réalisateur Bruno Dumont.
S'il le fallait, je vous présente Hélène Manarino. C'est à vous, Hélène.
Bonjour, Bruno Dumont.
Bonjour.
Alors, je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait pas sur vous. Et je dois vous avouer que la tâche n'a pas été simple. On peut le dire que vous avez des proches qui respectent à la perfection votre discrétion. Mais je ne me suis pas laissée abattre. J'ai enquêté, j'ai quand même pu glaner quelques informations inédites. Et en tant que ch'ti, comme vous, je devais respecter ce contrat, évidemment, quand Valenciennes rencontre Bailleul.
Merci.
Alors Bruno Dumont, on va tout de suite partir sur un plateau de tournage, car vous avez vos méthodes bien à vous. Il y a des choses à respecter. Sur un tournage de film, il y a toujours une table régie où l'on trouve de la nourriture. Mais il y a une chose que vous ne supportez pas, voir des biscuits pour enfants. Alors je vous demande, mais quels sont les biscuits pour adultes?
Mais aujourd'hui, on fait des biscuits pour adultes. Mais je ne me souviens pas des marques, ça vous me demandez? Oui, mais voilà, je ne veux pas que les techniciens soient comme des enfants et je ne comprends pas pourquoi on leur donne des petits goûters à 4h30.
Mais vous n'hésitez pas d'ailleurs à répéter plusieurs fois, mais qu'est-ce que c'est que cette table? Votre régime alimentaire, vous, c'est Perrier et un chocolat avant de travailler, mais chocolat pour adultes.
Tout
évidemment.
À fait, et je mange beaucoup de chocolat.
Oui. Ouais. Ouais, c'est comme un enfant finalement, ça.
Vous avez raison. Non, parce qu'il n'y a pas de petit bonhomme dessiné sur son paquet.
Ça, c'est pour le côté logistique, ravitaillement. Mais il y a également la direction grâce à une oreillette. Et avant une prise, on peut entendre de votre bouche à un de vos comédiens, l'oiseleur, tu m'entends? Alors il répond oui. Vous lancez le action. Seul problème, c'est que vous aviez oublié d'enlever votre chewing-gum. Donc l'acteur que vous dirigiez, vous entendez mâcher pendant les prises. Il ne se cachait pas de vous le dire avec cette phrase mythique. Je t'entends mâcher dans ma tête.
C'est tout à fait vrai.
Mais Bruno Dumont, parfois pendant vos tournages, vous avez besoin de faire des pauses. Quand vous tournez dans notre cher nord de la France, il vous arrive de quitter le tournage pendant 20 minutes quand il y a une pause pour vous ressourcer chez vous tranquillement.
C'est pas vrai.
Et oui, pendant que les gens vous cherchent.
Voilà, je tourne toujours près de chez moi, comme ça quand il y a une pause, je rentre chez moi.
C'est un luxe quand même,
c'est
ça.
C'est un grand luxe, oui.
Pour un réalisateur. Mais vous êtes surtout un réalisateur rocker. Vous ne tournez jamais, absolument jamais, sans votre blouson en cuir, même s'il est tout déchiré. C'est votre objet fétiche, votre porte-bonheur. Tout le monde vous dit de le changer, mais vous n'avez jamais voulu. C'est votre tenue de tournage. Sauf que cet été, il s'est passé quelque chose qui a bouleversé votre vie, Bruno Dumont. Vous avez changé de blouson.
C'est vrai, ouais. J'ai acheté un nouveau blouson.
Mais qu'est-ce que l'autre est devenu, surtout?
Je l'ai gardé.
Vous l'avez gardé?
Oui, je pense que je vais le remettre.
Et ce côté rocker, vous l'avez depuis votre tendre enfance, où vous passiez votre temps à faire de la mobylette avec vos amis dans la campagne environnante de Bailleul. Alors vous avez su très jeune que vous vouliez faire du cinéma, mais vos passions se concentrent aussi ailleurs. Vous êtes un passionné de peinture, un grand connaisseur. Vous parlez des peintures de Braque et Bruegel comme personne. D'ailleurs, il y a toujours des petits clins d'œil dans vos films. Le cinéma, la peinture et la musique. Vous êtes tout d'abord un grand admirateur d'un certain Alain Bachung. Mais aussi du chanteur Christophe, qui compose la musique de votre dernier film. Et celui qui domine par-dessus tout, c'est lui. Et oui, Braque et finalement Bruno Dumont, votre côté rock, il est là.
Braque.
J'ai dit quoi?
Braque.
Braque, pardon.
Georges Braque, sympa.
Oh, j'ai loupé ma chute.
J'aime bien Braque.
J'aime bien Braque aussi.
J'ai cité Braque tout à l'heure, donc je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà.
Voilà. On a compris.
C'est très juste.
Voilà, on a compris que Bruno Dumont était Braque
et Braque.
Et Braque.
Et Brock et Rock.
Brock Rock.
Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, on retrouve nos indispensables du jour, Mathieu Charrier, Thierry Geffrotin et notre invité Bruno Dumont qui reste avec nous.